l'atelier de l'histoire.
Vous parlez, monsieur, que vous avez connu Mao Tse-Tung ?
L'histoire.
Sûrement, je connais.
Mao Tse-Tung, un peu l'histoire.
Sûrement, sûrement.
Oh !
Lorsque Mao Tse-Tung a dirigé ses troupes, ici, le chef du régiment qui s'appelle Yuan Wen-tai m'a dit que justement c'est le commissaire Mao. Alors pour lui, il a servi de guide, de garde, et pour contrôler les passants.
La marche du monde, Isabelle Godineau, Valérie Nivelon.
Mao, par celles et ceux qui l'ont connu, survivant de la longue marche, médecin, photographe, petite fille de Mao, autant de témoignages extraits de nos trésors d'archives, autant de témoignages extraits aussi du remarquable documentaire de Philippe Short, Mao, une histoire chinoise. Une saga Mao que je vous propose de suivre durant 3 semaines en écoutant La Marche du Monde, guidée par notre invité Claude Hudelot et son gros livre rouge, tout juste publié aux éditions Rouergue. Claude Hudelot, bonjour.
Bonjour.
Ni hao.
Très bien.
Vous êtes historien, sinologue, et vous vous intéressez particulièrement au mythe de la personnalité de Mao. C'est l'objet du livre dont vous êtes l'auteur avec Guy Gallis, intitulé, allons-y, Le Mao. Vous vous rendez régulièrement en Chine, c'est d'ailleurs vous que l'on entendait au tout début de cette émission avec cet homme qui avait connu Mao, un extrait d'un de vos nombreux reportages pour France Culture. Alors Claude Hudelot, est-ce que les Chinois aiment Mao et est-ce que ceux qui ont connu Mao jouissent d'un prestige particulier ?
Alors oui, je crois que les Chinois aiment Mao, les jeunes comme les anciens. Simplement, je ne crois pas que les nouvelles générations connaissent vraiment Mao. C'est un des grands problèmes qu'on abordera peut-être dans cette série d'émissions. Il l'aime comme une image, comme une icône, comme un dieu parfois. Hein. Et chez les anciens, c'est plus contrasté. Il y a ceux, bien sûr, qui ont bénéficié du régime, qui ont participé à ce grand mouvement, qui sont montés dans la hiérarchie, etc. Donc ceux-là, ils gardent une certaine reconnaissance, une très grande reconnaissance au président, on dit toujours le président Mao, et puis il y a ceux qui ont souffert et qui sont conscients que cette souffrance ne vient pas simplement de la bande des quatre ou d'autres contre-révolutionnaires, mais de Mao lui-même.
Et quand on a connu Mao, c'est bien vu ou c'est honteux ?
Ah non, quand on a connu Mao, c'est comme une bénédiction.
Alors je vous propose de partir tout de suite pour la Chine, dans la région que vous connaissez bien, la région du Hunan, sur les traces de Mao, au son de Travaux publics, l'émission de Jean Lebrun sur France Culture.
Shaoshan, c'est le village natal de Mao, où des boutiques s'alignent qui vendent médaillons, babioles et maintenant CD et DVD, avec cette chanson par exemple, à la gloire du grand timonier.
Donc ici on voit la chambre dans laquelle a dormi Mao Zedong. Donc on a un lit double, deux fauteuils et un genre de sofa, de banquette pour se reposer, ainsi qu'une petite table pour apporter le déjeuner.
这个床啊特别的宽大。毛泽东到晚年的时候呢，他有一个习惯。
Donc en fait, le lit de Mao Zedong, on le voit, est très large et en bois. En fait, à la fin de sa vie, Mao Zedong restait beaucoup au lit pour lire. Il avait pris l'habitude de lire au lit et aussi pour travailler. Donc il lui fallait des lits assez larges.
Dans certaines biographies de Mao, on dit que Mao aimait les femmes et qu'il était entouré de femmes. Est-ce qu'ici, il a reçu des femmes aussi ?
Je pense que ça, ce sont souvent des choses qui sont colportées à l'étranger, des rumeurs sur la vie de Mao Zedong. Mais comme chef du parti communiste chinois, il se doit d'être supérieur par rapport au reste des mortels. Et donc, moi, dans les livres que j'ai lus sur lui, dans ce qu'il a écrit, on ne voit pas du tout que c'était un homme qui courait les femmes ou quoi que ce soit. Il venait surtout ici pour s'occuper des affaires de l'État.
Shao Shan, au lieu du tourisme rouge, c'est là que Mao est né en 1893 et c'est là qu'il retournera en 1959 à 65 ans. Claude Hudelot, dans quelles conditions les paysans de Shao Shan vivaient au début du XXe siècle, puisque 1893 c'était il y a très longtemps et c'est la date de naissance de Mao justement à Shao Shan.
Alors, il vivait pas si mal que ça au Hunan. Donc le Hunan, c'est vraiment le centre de la Chine, hein. C'est le bassin du Yangtze-Kiang. Et c'est une terre riche. Et on est déjà au sud de la Chine, selon les critères de Mao d'ailleurs, entre autres. Et donc, par exemple, le père de Mao était un paysan assez riche, qui non seulement cultivait la terre, mais qui vendait, qui avait sa boutique, et qui existe toujours d'ailleurs, hein, le bâtiment existe toujours. Bon, il y avait bien sûr des gens très très pauvres, hein, les gens étaient souvent illettrés, mais... Il y avait cette vieille culture chinoise qui perdurait. Et puis, le fait est que, bon, suivant les années, il y avait des années de sécheresse, il y avait des années d'abondance, etc. Mais dans cette région, hein, cette région du Hunan, on s'en sortait pas trop mal. Maintenant, il faut savoir qu'en Chine, il y a des régions qui sont beaucoup plus pauvres, hein, des provinces dont on a toujours dit qu'elles étaient pauvres et qu'elles restent encore aujourd'hui pauvres. Mais pour le Hunan, non, c'est pas le cas.
Claude Hudelot, à votre sens, est-ce que cette enfance à Shao Shan a été déterminante dans la formation des idées révolutionnaires de Mao Zedong?
Oui, oui, elle l'a été parce que la révolution a éclaté pas trop loin de là, à Wuhan et à Changsha, qui était la capitale, qui est toujours la capitale du Hunan. Il y a eu des mouvements révolutionnaires très, très tôt et Mao, très tôt, y a participé. Il a été, par exemple, engagé dans ce qui fut la première révolution qui allait faire tomber l'Empire en 1911-1912. C'est un petit soldat de la Révolution, mais soldat quand même.
Alors effectivement, il connaît cette fin d'Empire, il y participe, vous venez de nous le signaler, et il connaît bien sûr la première République chinoise, présidée par Sun Yat-sen. Alors, en 1918, Mao part pour Pékin, où il va être professeur, mais en fait, est-ce que ce n'est pas à Shanghai que tout va commencer, politiquement parlant, puisque c'est là qu'il va rejoindre en quelque sorte le repère clandestin des révolutionnaires de l'époque?
Alors, Pékin d'abord quand même, parce qu'à Pékin, c'est là qu'il va rencontrer, en tant qu'aide bibliothécaire, petit poste à l'université, à la bibliothèque de Pékin, il va rencontrer les premiers grands révolutionnaires, hein, que sont Li Ta-chao et Chen Tu-hsiu, qui va être le premier secrétaire général du Parti communiste chinois. Donc Pékin d'abord, et effectivement Shanghai, puisque à Shanghai, en tant que représentant de ce futur Parti communiste chinois, ils étaient 56 en tout, hein, il y a une réunion fondatrice qui se déroule donc en juillet 1921 à Shanghai, et qui marque le début du Parti communiste chinois, qui va d'ailleurs s'allier très très vite avec le Kuomintang de Sun Yat-sen.
Après la scission entre nationalistes et communistes, de nombreux communistes, des femmes, aussi bien que des hommes, furent tués à Changsha. On les voyait le dos attaché à une lance. Une sonnerie de clairon, puis direction le terrain d'exécution.
Thank you.
Extrait de Mao, une histoire chinoise, le film de Philippe Short, le témoignage de Li Ryu, ancien secrétaire de Mao. Claude Hulot, il ne faisait pas bon être communiste à l'époque, on l'a entendu, ils sont persécutés. Comment Mao, lui, va-t-il réagir et donc faire face à ces persécutions?
Alors, tout d'abord, il faut dire que ce que j'ai évoqué tout de suite, moi, nous situait dans les années 25. Là, le témoignage qu'on vient d'entendre fait référence à 1927, hein, ce qu'on appelait la trahison de la révolution chinoise. Et en fait, c'est Chiang Kai-shek qui est le successeur de Sun Yat-sen qui se retourne contre les communistes pour prendre le pouvoir. Et donc, les communistes, effectivement, sont pourchassés. Alors, Mao, lui, pour faire court, Mao va se réfugier avec d'autres, avec un homme qui va être son alter ego pendant très longtemps, qui s'appelait Chu Te, le général Chu Te. Il va se réfugier dans des montagnes, des petites montagnes, le Qingkangshan, les montagnes Qingkang, au sud-est de la Chine. Et c'est là qu'il va créer les premiers soviets. Et contrairement à la théorie révolutionnaire marxiste-léniniste classique, hein, qui voulait que les révolutions commençaient dans les villes grâce au prolétariat, lui joue la carte des paysans. Et c'est ainsi qu'est né donc ce mouvement communiste minoritaire.
Quand l'armée rouge est arrivée à Mao Ping, les soldats nous ont dit de ne pas avoir peur, que nous ne devions pas nous enfuir dans les montagnes. Ils nous ont promis de ne pas battre ni injurier les gens. Les nationalistes s'emparaient des biens des habitants et partaient avec. L'armée rouge, en revanche, a payé tout ce qu'elle a pris.
La situation s'est améliorée après l'arrivée de l'armée rouge, parce qu'à ce moment-là, nous avons commencé à combattre les propriétaires terriens. On les dépouillait et on ramenait le butin ici, et on avait davantage à manger.
Mao, chef d'une guérilla communiste qui balaie donc les campagnes de Chine, hein, puisqu'il fuit et se bat contre les groupes nationalistes, l'armée nationaliste, et il rallie les paysans à la cause révolutionnaire. Donc c'est à la fois une guerre civile, c'est aussi l'occasion de retourner la population contre le pouvoir central.
Absolument, et c'est aussi l'occasion de théoriser tout cela. À partir de 26, 27, 28, Mao commence à écrire des textes fondateurs, dont le rapport sur les paysans du Hunan, et une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine, etc. De telle sorte que, à la fois, c'est l'homme d'action, hein, qui s'engage, et qui est aussi un redoutable stratège, avec son alter ego, comme j'en parlais tout à l'heure, de Chu Te. Et puis, c'est ce théoricien, donc les deux, et puis aussi un homme de pouvoir. Il faut savoir que très très vite, il y aura des répressions au sein du PC, parce que là, on a une image idyllique un peu à travers les témoignages qu'on entend. C'est vrai que l'armée rouge a tranché par rapport aux blancs, l'armée de Chiang Kai-shek, les nationalistes, qui étaient beaucoup moins corrects par rapport aux populations. Mais il n'empêche que les rouges ne sont pas totalement blanchis par l'histoire. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose qu'il faut savoir à l'époque, c'est que Mao n'est pas encore le président du PC, qu'il va devenir bientôt. Il est minoritaire parce que la tendance moscovite, disons, on les appelait les 28 bolcheviks, avaient le pouvoir au sein de l'organisation du PC, même s'ils étaient dans les campagnes, dans les soviets que Mao avait créés.
Et est-ce que c'est à l'occasion de l'épisode de la Longue Marche que vous allez nous présenter, Claude Hulot? Vous avez également écrit un livre à ce sujet, que Mao finalement va émerger comme chef de cette guérilla communiste?
Oui, c'est vraiment exactement cela. Donc je situe les faits, fin 1934, le pouvoir de Chiang Kai-shek monte une opération absolument monstrueuse avec 1 million d'hommes, des conseillers militaires allemands pour enserrer donc et pour écraser ces soviets, et l'armée rouge donc fuit in extremis en octobre 34 et s'en va. Et c'est un sauve-qui-peut épouvantable, ce n'est pas encore la longue marche. Et puis, en janvier 1935, dans un tout petit bled qui s'appelle Tsunyi, dans la province du Guizhou, donc à l'ouest de la Chine, là, Mao prend le pouvoir en expliquant toutes les bêtises, les énormes bévues, etc., qui ont été commises par ses prédécesseurs, et il ne le lâchera plus jusqu'à sa mort.
Et les survivants de la longue marche se souviennent.
J'ai cru que toute notre unité allait être balayée. Des deux côtés, les combats étaient acharnés. Lorsqu'on a essayé de traverser, l'ennemi a tiré avec ses mitraillettes depuis la rive opposée. Quand on a tenté de prendre le pont d'assaut, beaucoup des nôtres ont été tués et sont tombés dans l'eau. Ce jour-là, j'ai cru mourir 9 fois. Je ne pensais plus revoir Wei Jin.
Et aux côtés des centaines de milliers de soldats de l'armée rouge, quelques femmes sont là, ce qui augure déjà du projet politique de Mao, selon l'écrivain George Walter.
Et alors ça, c'est une chose capitale dans l'histoire de la révolution chinoise, que des femmes aient participé à cette aventure-là. Parce que si des femmes ont participé à cette aventure-là, c'est que déjà le rôle de la femme et la situation de la femme chinoise étaient totalement changés. Et à cet égard, ce que Mao Tse-tung a fait de plus révolutionnaire, beaucoup plus que la révolution agraire, il y a eu des révoltes paysannes pendant toute l'histoire de la Chine. La véritable révolution, ça a été de changer la situation de la femme, ça a été la libération de la femme chinoise. Et ça, ça a été déjà établi dans le soviet du Jiangxi. Et comme la condition de la femme était une des obsessions de Mao Tse-tung, qui avait juré à 19 ans de ne pas se marier tant qu'il y aurait des mariages forcés, des fillettes vendues, etc., eh bien, une des premières lois dans le soviet du Jiangxi déjà a été la loi sur le mariage. Et lorsque Mao a pris le pouvoir en 1949, la première loi de la République populaire, ça a été la loi sur le mariage.
Partagez-vous l'analyse de George Walter, Claude Hulot, historien et ethnologue?
Non, je respecte beaucoup ce que dit et ce qu'a écrit George Walter sur un sujet qui nous est commun. Maintenant, quand on voit ce qui s'est passé réellement, on se rend compte que peut-être tout n'est pas aussi rose qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que les femmes, encore aujourd'hui, ne sont pas l'égale des hommes en Chine. Ce n'est pas vrai. Et souvent, les femmes, dans les campagnes, mais aussi dans les usines, font les travaux les plus lourds.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas quand même une transformation de la Chine qui passe un peu quand même du Moyen-Âge à la modernité, une forme de modernité?
Oui, c'est vrai, mais tout n'est pas blanc ni noir, hein, en l'occurrence. Et c'est vrai que Mao a beaucoup théorisé aussi là-dessus. Il a cette fameuse expression, les femmes sont la moitié du ciel. Il le disait, il le répétait, et il a donné des responsabilités aux femmes. Mais il se trouve, puisque j'ai vécu longtemps en Chine, qu'on peut constater La chose suivante, c'est que les femmes ne sont toujours pas l'égale des hommes en Chine. Et Mao a fait beaucoup, mais il n'a pas tout fait pour les femmes en Chine.
Alors on aimerait en savoir plus sur Mao et les femmes. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Et déjà, sur la femme peut-être qui est à ses côtés à l'époque, justement, qui se bat à ses côtés. Il y en aura plusieurs.
Il aura quatre femmes. Une première femme dont on connaît absolument pas l'histoire, puisqu'elle disparaît, elle meurt très très tôt. Et puis ensuite, la seconde qui sera tuée par l'armée de Chiang Kai-shek. Et puis la troisième qui malheureusement deviendra quasiment folle, enfin sera très maltraitée par Mao lui-même. Et la dernière, la plus célèbre, c'est Jiang Qing, l'extraordinaire impératrice rouge.
On aura l'occasion d'en parler dans les semaines qui viennent. Alors on va maintenant écouter le témoignage d'une femme, d'une autre femme très importante pour la construction du culte de la personnalité de Mao. C'est Hu Bo, j'espère que je n'écorche pas son nom. Et c'est elle qui signe une des premières photographies de votre livre, Claude Hulot, une des premières photographies officielles de Mao en 49.
C'est très très important pour elle, mais pas seulement pour elle, pour la Chine et pour le monde entier. C'est une petite paysanne, une petite orpheline du Shanxi, donc qui se rend à Yan'an, la capitale communiste, dans les années 30, et puis qui apprendra le métier de photographe sur le tas. Et Mao lui donne cette chance en 49 de commencer à faire des photos, et elle est tellement tellement extraordinaire. C'est elle donc qui fait cette fameuse photo sur Tiananmen, Mao en train de faire ses discours, la photo faire le tour du monde, et Mao l'engage, et elle va être la seule photographe de Mao jusqu'en 1962.
Hu Bo, elle se souvient du déferlement des bombardements japonais sur la Chine au tout début des années 30 et de sa fuite vers Yan'an.
Leur politique était de tout détruire, tout brûler et tout piller. Tout le monde avait peur. On était jeunes, on ne savait pas ce qui se passait. Alors on a demandé à notre professeur. Il a dit que c'était les Japonais. Ce professeur était un membre du parti clandestin. Et il nous a parlé de Yan'an. Alors on a décidé d'y aller.
Claude Hulot, que représente Yan'an dans l'histoire officielle de la Chine communiste ?
Yan'an, c'est là où tout s'est construit contre les Japonais, d'abord, et avec Chiang Kai-shek, puisque l'ennemi d'hier redevient l'ami pour une période de plusieurs années qui va nous amener à 45, et puis 45 à 49, c'est donc à nouveau l'opposition. Donc Yan'an, c'est une petite ville à l'époque, au nord-ouest de la Chine, et c'est là donc que Mao vraiment marque de sa patte, hein, de son empreinte, le pouvoir, construit ce pouvoir, et construit le PC aussi en même temps, les deux allant de pair. Et c'est là aussi que les intellectuels vont pour soutenir ce régime. C'est là aussi que Edgar Snow fait découvrir ce paysan, ce personnage extraordinaire, à la terre entière.
Edgar Snow, c'était un journaliste américain. Et c'est là aussi, Claude Hulot, que Roubaud, justement, rencontre Mao.
Alors, elle le croise, mais elle ne le rencontre pas vraiment. Elle rencontre, en revanche, son futur mari, qui est photographe et cinéaste, qui s'appelle Xu Xiaoping. Et elle rencontrera vraiment Mao au Xiangshan, près de Pékin, en 49. Et là, il y a une très, très jolie anecdote. Elle croise donc Mao avec ce personnage, Xu Xiaoping. Et Mao lui dit, mets-toi au milieu, Roubaud, mets-toi au milieu. Et Roubaud est très impressionné. Elle comprend déjà la dimension du personnage. Il dit, non, je ne veux pas, je n'ose pas, président. Et il insiste, il dit, mais si, puisque les femmes sont la moitié du ciel. Et elle se met là. C'est tout. Or, beaucoup plus tard, elle sera enfermée dans un laogai au moment de la révolution culturelle par la femme de Mao, par Chiang Ching. Et ce qu'on lui reprochera, entre autres, c'est d'avoir pris cette place au centre, à la place du président Mao. C'est une histoire folle, mais qui témoigne de la violence de l'époque.
On va se quitter, Claude Hulot, et on se donne déjà rendez-vous la semaine prochaine avec la voix de Mao. C'est l'enregistrement le plus ancien dont nous disposons à RFI. Il date du 15 juin 1949.
Lorsque Mao Tse-tung prononce un discours, il focalise l'attention de chacun. Bien qu'il parle le dialecte du Henan, les gens sont captivés. La langue qu'il parle est nouvelle. Et il a le don d'expliquer des choses profondes d'une façon simple. Il parle au cœur des gens.
Le témoignage énamouré d'un ancien médecin de Mao. Je vous vois sourire, Claude Hulot. Alors écoutez, ce sera votre conclusion. Est-ce que Mao a inventé une nouvelle façon de parler au peuple chinois, ou est-ce qu'après tout, c'est la première fois qu'on parle au chinois en 49?
C'est plutôt la première fois qu'on parlait au chinois. Non, Mao avait le sens de l'expression. C'était un redoutable bretteur. Il était capable de retourner les situations par sa parole, mais il avait effectivement un accent du Hunan, un accent très très prononcé, et beaucoup de Chinois ne le comprenaient absolument pas. Et ce qui m'a frappé, moi, tout au cours de cette émission, c'est le nom. J'ai entendu beaucoup de voix et d'accents, et tous ces accents différents qui sont difficiles à comprendre quand on n'est pas de Pékin. Et pour revenir à Mao, non, il savait s'exprimer, il a été très puissant, il dégageait beaucoup d'énergie, ça c'est clair. Mais je ne pense pas que ça a été un très grand orateur.
Merci Claude Hulot. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour poursuivre cette saga Mao, je rappelle votre livre riche en iconographie, écrit avec Guy Gallis, Le Mao. C'est aux éditions Le Rouergue. We'll be right back. Ce premier épisode de la saga Mao est réalisé par Isabelle Godineau et Thomas Ferrière avec des extraits du film Mao, une histoire chinoise aux éditions Arte Vidéo avec également les archives de l'INA. En attendant la semaine prochaine, retrouvez-nous sur RFI.fr, abonnez-vous au podcast de l'émission, réagissez sur marche.monde@RFI.fr. Toute l'équipe vous remercie pour vos encouragements et votre fidélité.